Que fait Dieu? Les aléas du direct. Deux fois plus de micro parce que je peux dire deux fois plus de bêtises, donc il faut être attentif. Que fait Dieu? Selon l'association chrétienne Portes Ouvertes, en 2026, 388 millions de chrétiens sont exposés à de fortes persécutions et de discriminations en raison de leur foi, soit un chrétien sur sept. La persécution s'est encore aggravée pour la 13e année consécutive. En cause, plus de violences physiques contre les chrétiens et un rognement progressif des droits de l'homme. Que fait Dieu? Pourtant, Jésus avait dit que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre son Église. Ah bon? N'avons-nous pas l'impression qu'au contraire, l'Église souffre? Ne vous êtes-vous jamais demandé, Dieu est-il vraiment en contrôle? Tient-il vraiment ses promesses? Et c'est également la question soulevée par Jérémie. Si vous vous souvenez du chapitre 1, Dieu a établi Jérémie pour être son porte-parole. C'est ce qu'on appelle un prophète. Et sa mission est double. Tout d'abord, il doit arracher et démolir. Et puis, il doit bâtir et planter. Autrement dit, Jérémie doit rapporter les paroles de Dieu à son peuple. Il doit leur dire, « Vous deviez pratiquer la justice, mais vous pratiquez l'injustice. Vous deviez refléter la bonté de Dieu, mais vous pratiquez le mal. Vous devez donc être jugé, c'est-à-dire arraché. Mais si vous vous repentez, si vous regrettez votre mal, si vous revenez à Dieu, alors Dieu vous bénira. Vous serez alors planté. » Alors je sais que dans les 30 prochaines secondes, ce que je vais dire va être compliqué, mais c'est très important pour comprendre ce passage. Jérémie est le porte-parole de Dieu. C'est un prophète. Il dit des choses de la part de Dieu. Sa mission est donc de transmettre fidèlement la parole de Dieu à son peuple. Et le raisonnement est assez simple. Pas de prédication du jugement de Dieu à venir. Eh bien, pas de prise de conscience du péché. Pas de prise de conscience du péché, alors pas de repentance du peuple. Et pas de repentance du peuple, alors pas de bénédiction possible. Par conséquent, la parole transmise par Jérémie n'est pas un simple discours religieux. Elle est même l'instrument du plan de Dieu. Dieu accomplira son plan de bénédiction par la proclamation fidèle de Jérémie. C'est par la prédication de la parole de Dieu que le peuple connaîtra la bénédiction. Rejeter cette parole n'est pas simplement rejeter un prédicateur, mais rejeter cette parole, c'est rejeter ce que Dieu est en train d'accomplir. Fin de la parenthèse un peu complexe. Alors, comment le peuple réagit-il à la prédication de Jérémie? Par l'indifférence, la moquerie, l'humiliation, puis même la persécution. Au début du chapitre 20, l'opposition franchit même un cap. Jérémie est frappé et il est mis au pilori. Vous savez, cette structure en bois où on fait passer la tête et les mains. Et en général, un peu en hauteur et c'est un peu l'humiliation publique. Et donc la question se pose. Si l'on fait taire le prophète Jérémie, peut-on faire taire la parole de Dieu ? Si l'on tente de faire taire la parole de Dieu, peut-on arrêter le plan de Dieu? C'est la question qui va nous intéresser ce matin. Premier point, les luttes extérieures ne feront pas taire la parole. Les luttes extérieures ne feront pas taire la parole. Soyons nets, le quotidien de Jérémie est loin d'être un fleuve tranquille. Il ne voit certainement pas la vie en rose. Selon les versets 7 à 10, ses journées étaient rythmées par l'indifférence, dans le meilleur des cas. La moquerie, vous avez vu au verset 7 ? Je suis chaque jour en dérision. L'humiliation publique, alors on ne lui demandait pas de se mettre à genoux sur des cailloux comme Philippot a dû faire ou d'embrasser le talon d'une vierge, mais l'idée est là, c'est assez saisissant, n'est-ce pas ? Verset 7, tout le monde se moque de moi. rythmé par le rejet constant, verset 8, déshonneur et risé toute la journée. Et puis même par la persécution physique, au verset 10. Nous le vaincrons, nous tirons vengeance de lui. Le pilori est non seulement une douleur physique, une posture inconfortable pendant plusieurs heures, mais c'est aussi une humiliation publique, une exposition au regard de tous. C'est devenir le spectacle du quartier, c'est être montré du doigt toute la journée. Jérémie devient un spectacle de honte. Je ne sais pas si vous avez remarqué la répétition du mot « tous ». Il apparaît 5 fois dans le passage. Verset 7, « tout le monde ». Verset 8, « toutes les fois que je parle ». Verset 8 encore, « déshonneur et risée toute la journée ». Verset 10, « effroi de tous côtés ». Et encore verset 10, « tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je flanche ». Toute la journée, tout le temps, tout le monde. L'opposition est permanente. Pas de repos pour le brave Jérémie, pas de bouton off, pas de me time possible. Et quand je lis ces versets, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce fameux tableau du cri. On voit cette personne qui a le visage complètement déformé, comme s'il portait toute la détresse et l'angoisse du monde sur ses épaules. Et les mots de Jérémie sont durs. « Tu m'as séduit » au verset 7. « Éternel, tu m'as séduit !» Ne va-t-il pas un peu trop loin? Souvenez-vous de ce que Dieu lui avait dit au chapitre 1, verset 5. « J'étais établi prophète pour les nations. » Et franchement, dit comme ça, c'est impressionnant, c'est prestigieux, ça sonne grand. Quel appel, quelle mission pour Jérémie, prophète des nations. Moi, ça me fait un peu penser quand on est dans une soirée et qu'on doit apprendre à faire connaissance avec d'autres personnes. Et on me demande, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y a toujours une personne qui a un métier extrêmement impressionnant, qui sort du commun. Et en fait, quand il dit ce qu'il fait, on n'a plus trop envie de parler. Et je pense que Jérémie, quand on parlait avec lui, c'était un peu ça. Toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, t'es charpentier. Moi, je suis prophète des nations. C'était incroyable. Prophète des nations. Mais toutefois, le prestige du titre a été rapidement balayé par la violence de son quotidien et de la réalité. Derrière la grandeur de l'appel, il y a l'indifférence et la moquerie. Derrière le mot « prophète des nations », il y a le pilori. Derrière l'appel « glorieux », il y a la honte quotidienne. Toute la journée, tout le temps, tout le monde. Mais si on est honnête, ce cri de Jérémie ne nous est pas si étranger que ça. Seigneur, je ne savais pas qu'être chrétien me pousserait à subir la persécution dans mon travail. On me pousse à être malhonnête et on abuse de mon honnêteté. Seigneur, je ne savais pas qu'être un ambassadeur du Christ dans ma famille serait si difficile et que ça me demanderait autant de patience et de larmes et d'endurance avec des enfants qui sont si rebelles et insensibles à ta parole. Je ne savais pas que la foi me conduirait au célibat et à la solitude. Je ne savais pas que te suivre provoquerait la division de ma famille. La souffrance de Jérémie est réelle. Il est totalement transparent vers Dieu avec ce qu'il vit au quotidien, toute la journée, tout le temps, tout le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué le dilemme cornélien auquel il est confronté. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas, il finit par souffrir. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas, il finira par souffrir. Quand Jérémie prêche fidèlement la parole de jugement, cela provoque 2 réactions. Tout d'abord, on peut le prendre pour un illuminé. On peut penser un peu à Philippitus dans Tintin, qui crie toute la journée « La fin du monde! Vous allez tous mourir !» Et si vous avez été gêné par ce que je viens de faire, moi aussi, ne vous inquiétez pas. Mais je pense que Jérémie était considéré comme ça toute la journée. Le fou du bus, c'est Jérémie. Soit on le prenait pour un fou, Soit on le prenait pour un fanatique religieux, un terroriste du verbe. Quoi ? Mais t'es bloqué au Moyen-Âge. T'es en train de me dire, tu crois en ce que dit la Bible ? Tu crois en un Dieu de justice ? Tu me parles de la colère de Dieu et de l'enfer. Réveille-toi. On n'est plus au Moyen-Âge. Tu es dangereux, tu es toxique. Ça, c'est ce qui arrive quand Jérémie transmet fidèlement la parole. Alors, il peut choisir une autre alternative. La deuxième possibilité de ce choix cornélien. Il peut être tenté d'arrêter de parler. Si Jérémie arrête de parler, alors il ne subira plus ni moquerie ni souffrance. Va-t-il pouvoir poser sa casserole du prophète de malheur pour enfin goûter à un peu de quiétude et de paix dans sa journée ? La réponse tombe au verset 9 et elle est stupéfiante. Non, pas d'échappatoire. Regardez le verset 9. Je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. J'arrêterai de parler de la part de Dieu. J'arrête de parler du jugement. Je reste tranquillement chez moi. Toujours verset 9. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis. Il est consumé de l'intérieur. Un feu qui le détruit, qui le fait terriblement souffrir. Mais attention, ce n'est pas parce que Jérémie est un héros de la foi. Ce n'est pas parce que c'est un croyant d'une piété à toute épreuve. Ou c'est pas parce qu'il est un super prophète. Non, certainement pas. C'est parce qu'il y a en lui ce véritable feu qui vient de l'extérieur, qui l'empêche de se taire. Ce n'est pas possible pour lui. Imaginez que vous faisiez partie d'une expédition militaire dans un territoire ennemi et le soir vous faites un feu de camp pour vous réchauffer et tout d'un coup vous entendez du bruit, il faut absolument vite éteindre le feu et dans le pris de panique vous prenez un charbon, vous essayez de refermer votre poing pour cacher la lumière. Mais à un moment, la brûlure sera si intense que vous ne pourrez couvrir votre main. Et la lumière ressortira. La parole de Dieu dans le cœur de Jérémie a le même effet que ce charbon ardent. Oui, il peut essayer de le cacher. Oui, il peut essayer de l'enfouir. Mais la brûlure et la douleur sera si grande que la parole continuera à ressortir. Oppresser le messager ne fera pas taire le message. Oppresser le messager ne fera pas taire le message. Voici le dilemme cornélien de Jérémie. S'il parle, il subit la violence de l'extérieur. S'il se tait, il subira une torture de l'intérieur. Mais la question se pose, d'où vient ce feu qui empêche Jérémie de se taire ? C'est notre deuxième point. L'Éternel soutient son porte-parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué le pivot de notre passage. Ce petit mot de quatre lettres, petit mais grand en importance. Au verset 11, c'est le mot « mais ». Dès que vous lisez la Bible, dès que vous voyez le mot « mais », ouvrez bien l'œil. Parce que souvent, il y a une bonne nouvelle juste après. Et ici, quelle est la bonne nouvelle ? C'est que même dans le chaos extérieur le plus total, une certitude demeure. Dieu aura le dernier mot. Comment Jérémie peut-il passer de la plainte déchirante des versets 7 à 10 à la louange éclatante du verset 13 ? Chantez à l'Éternel ! Louez à l'Éternel ! Lui qui venait de dire toute la journée, tout le temps, tout le monde, chantez à l'Éternel, louez l'Éternel. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui a changé? Sa situation a changé? Non. Il est toujours dans la souffrance. Ses ennemis? Non, il complote toujours. Le monde autour de lui? Non, rien n'est devenu plus facile. Alors qu'est-ce qui a changé? C'est cette prise de conscience que l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. » Au verset 11. Voilà pourquoi Jérémie tient bon. Voilà pourquoi il ne s'effondre pas complètement. Voilà pourquoi les ennemis ne réussissent pas à le faire taire. Ce n'est pas parce que Jérémie serait un homme d'une piété extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'il est un super chrétien. Mais c'est parce que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Je suis désolé, Philippot, mais j'avais déjà préparé ça. Mais pensez à cet enfant qui se fait maltraiter à l'école, où il y a les grandes brutes des classes supérieures qui le malmènent, qui l'humilient. Puis tout d'un coup, il y a cet enfant qui il sent une main robuste sur son épaule. Et cette main-là, c'est celle de son grand frère qui vient le défendre. Est-ce que les brutes ont disparu ? Non. Est-ce que le danger a disparu tout d'un coup ? Non. Est-ce que la situation extérieure a changé ? Non. Mais qu'est-ce qui a changé ? C'est la présence de son grand frère. Cette présence rassurante. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et je viens avec toi au milieu de tes difficultés. Voici pourquoi Jérémie ressent ce feu dévorant qui est retenu dans ses os. C'est le signe que Dieu soutient lui-même la mission qu'il lui a confiée. Dieu ne laisse pas Jérémie seul avec une mission impossible. Il met sa propre puissance au service de son porte-parole. Pensez au roi Albert Ier durant la Première Guerre mondiale. Ça aurait été tout à fait légitime qu'il reste dans son palais, bien en sécurité, bien dans le confort. C'est un peu notre vision qu'on a peut-être du pouvoir et des autorités. Mais absolument pas. Lui a choisi d'être au milieu des tranchées. Au cœur du combat, de la poussière, des larmes et de la difficulté. Et souvent, on a une mauvaise image et vision de ce que Dieu est. On imagine un souverain qui est loin sur son trône. Mais absolument pas. Dieu soutient lui-même la parole qu'il a confiée à Jérémie. Dieu soutient lui-même la parole qu'il a confiée à son serviteur. Mais alors, il reste une dernière question. D'accord, les ennemis du dehors n'ont pas réussi à faire taire la parole. D'accord, Dieu est avec Jérémie. Mais qu'en est-il du dedans de Jérémie? Jérémie lui-même peut-il faire taire la parole de Dieu? C'est notre troisième point. Les luttes intérieures ne feront pas taire la parole de Dieu. Les luttes intérieures ne feront pas taire la parole de Dieu. Les versets 14 à 18 sont choquants. Jérémie maudit le jour de sa naissance. Il maudit même l'homme qui a prononcé sa venue à son père. Alors il est possible que cette plainte de Jérémie ne nous choque pas tant que ça. En effet, on vit dans une époque où nous avons un peu la plainte facile. Aujourd'hui, notre culture valorise énormément la plainte. Nous vivons dans une société de réclamation. On se plaint au restaurant pour obtenir un geste commercial. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de cette dame qui avait porté plainte contre McDo parce que son café était trop chaud. Ces derniers temps, sur Internet, je suis harcelé par ces publicités qui me disent que si durant les 5 dernières années, mon vol a eu du retard, alors je peux faire réclamation pour avoir un remboursement. On nous encourage à nous plaindre, à gémir, à geindre. Et donc, quand nous lisons ces versets 14 à 18, il faut prendre garde à deux travers. Tout d'abord, ne nous fourvoyons pas. Jérémie ne se plaint pas à Dieu comme on se plaint à un service client. J'ai si facilement, moi, tendance à transformer Dieu en prestataire de service. Comme s'il devait reconnaître le désagrément que j'ai ressenti et m'offrir une compassion pour la prochaine épreuve. Vous reconnaissez un peu là-dedans ? J'ai souffert. Ça a été difficile. La prochaine fois, j'espère faire un petit coup de boost là. Non, ici, Jérémie ne réclame aucune compensation, aucun avantage matériel, aucun dédommagement. Il crie simplement de douleur. Sa mission est trop difficile à porter. Le deuxième travers, consiste à lire ce passage avec nos lunettes occidentales du XXIe siècle. Il ne s'agit pas dans ces versets d'une dépression suicidaire au sens moderne du terme. Il ne s'agit pas non plus d'une complaisance dans la haine de soi. J'aime me faire mal, je souffre donc je suis, vous voyez un peu ce principe-là. Et il ne s'agit pas non plus d'une crise philosophique abstraite de l'existence. La vie est absurde, la vie n'a aucun sens. Ce n'est pas ce que Jérémie est en train de dire ici. Ce n'est pas son propos. Ce cri traduit la douleur d'un homme qui lutte douloureusement avec sa vocation de prophète. Souvenez-vous de Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu l'avait mis à part avant même sa naissance pour être prophète. Dieu l'avait mis à part avant qu'il naisse pour être son porte-parole. Sa naissance et son ministère sont étroitement liés. Les deux vont de pair pour Jérémie. Donc, en un sens, pour Jérémie, venir au monde et recevoir cet appel sont les deux faces d'une même pièce. Et donc, lorsque Jérémie maudit le jour de sa naissance, il ne rejette pas le fait d'exister, c'est pas ça. Mais lorsque Jérémie maudit le jour de sa naissance, il maudit en fait sa mission d'être le porte-parole de Dieu, d'être le prophète de Dieu. Vu que je suis né pour être prophète, je maudis ce jour de la naissance parce que je ne supporte pas ce ministère. Ça m'a fait penser un peu à, bon, ça vaut ce que ça vaut, à Frodon. Le prix à payer pour accomplir sa mission était difficile à supporter pour lui. À la fin de son périple, il ne marche plus, mais il rampe. Il a faim, il a soif, et le poids d'anneau le fait terriblement souffrir. On le voit pleurer, gémir, supplier et crier. Il semble même regretter le fait d'avoir quitté la comté. Mais son cri traduit la souffrance du poids insupportable de ce qu'il transporte. Il reste fidèle à sa mission jusqu'au bord et jusqu'au bout du gouffre. Non parce qu'il est fort, mais parce qu'il est convaincu que ce qu'il fait est juste et que c'est sa mission. Même cette terrible lutte intérieure de Jérémie ne fera pas taire la parole de Dieu. Même l'effondrement intérieur de Jérémie ou psychologique ne bloquera pas le plan de Dieu. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'après tout, le verset 18 termine avec une question de Jérémie. Pas de réponse de Dieu. Qu'est-ce qui me permet de dire que les luttes intérieures de Jérémie ne stopperont pas le plan de Dieu? La réponse est simple. Il y a un chapitre 21. Le livre ne s'arrête pas à Jérémie chapitre 20. L'histoire continue, la prophétie avance, le jugement annoncé par Jérémie aura bien lieu. Jérémie continue de prophétiser. Nous arrivons donc au bout du constat. Ni les ennemis extérieurs, avec leurs coups, leur pilori, leurs moqueries, ni même Jérémie lui-même avec sa détresse intérieure, ne pourront arrêter la parole de Dieu. La parole de Dieu s'accomplira malgré l'opposition extérieure et malgré l'effondrement intérieur de Jérémie. La parole de Dieu ne dépend ni de l'accueil des auditeurs de Jérémie, ni de la performance de Jérémie pour atteindre son but. La parole continuera de se propager et le plan de Dieu s'accomplira. Concluons. Oui, Jérémie est le serviteur rejeté par les siens. Mais plus tard, un autre serviteur viendra parmi les siens. Et les siens ne le recevront pas. Oui, Jérémie est angoissé. Mais plus tard, à Gethsémané, un autre serviteur sera saisi d'une angoisse si profonde qu'il dira « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Oui, Jérémie est fidèle à sa mission. Mais là où Jérémie crie son désarroi et son impuissance, un autre murmurera « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne ». Car bien que Jérémie soit un bon modèle de persévérance et de fidélité, il n'en est pas moins limité. En effet, là où Jérémie a souhaité mourir plutôt que d'accomplir sa mission, Jésus-Christ a décidé d'accepter sa mission et de l'accomplir en acceptant de mourir pour son peuple. Vous saisissez la différence? Car le cri le plus déchirant de l'histoire, ce n'est pas « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel ? Pourquoi la souffrance et la douleur est pour me consumer mes jours dans la honte ?» Ce n'est pas ça le cri le plus déchirant de l'histoire. Mais c'est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jérémie, lui, crie écrasé par sa mission d'annoncer le jugement de Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, a été écrasé pour recevoir ce jugement à notre place. Jérémie aurait voulu ne pas être né pour porter cette mission, mais Jésus lui savait qu'il était venu pour donner sa vie. Jérémie souffre sous le poids de la parole, mais Jésus porte sur lui le jugement annoncé par cette parole. Jérémie montre jusqu'où peut aller la souffrance du serviteur de Dieu, mais Jésus montre jusqu'où l'obéissance parfaite du Fils de Dieu peut aller. Mes amis, c'est cette bonne nouvelle qui nous encourage à être prêts à souffrir pour continuer de transmettre la parole de Dieu. C'est l'Évangile qui t'encouragera à continuer de parler de Christ à tes enfants malgré leur rébellion. C'est l'Évangile qui t'apportera la paix lorsque le poids du célibat sera trop lourd à porter. C'est l'Évangile qui te donnera la force d'être honnête quand tous tes collègues te forceront à être malhonnête. C'est ce message de Jésus qui a accepté d'être jugé à notre place, qui encourage aujourd'hui un chrétien sur sept à continuer de parler de l'Évangile malgré la persécution. En fait, nous ne faisons que suivre aussi les traces de l'apôtre Paul lui-même. Nous portons ce trésor, c'est-à-dire l'Évangile, dans des vases de terre, dans des gobelets, toute notre richesse dans des gobelets en plastique, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La parole de Dieu s'accomplira malgré l'opposition et malgré la faiblesse des chrétiens. Dieu tiendra-t-il promesse ? Tiendra-t-il parole ? La réponse est claire. Oui. Et peut-être que tu es toujours sceptique et que tu te demandes encore, franchement, est-ce que la parole de Dieu agit encore aujourd'hui ? Voici la preuve irréfutable. Dans quelques minutes, nous assisterons à 5 baptêmes. Ces baptêmes sont justement un signe que la parole de Dieu n'a pas été réduite au silence. Les portes de l'enfer ne prévalent pas. Malgré l'opposition du dehors, malgré les combats du dedans, Dieu continue d'appeler, de sauver et d'accomplir ses promesses en Jésus-Christ. La preuve, les 5 baptêmes. Quand tout semble dire que Dieu n'accomplira pas ses promesses, quand le dehors humilie, quand le dedans s'effondre, la parole de Dieu continue pourtant d'avancer. Et en Jésus-Christ, nous avons la preuve définitive que Dieu tient réellement parole. Alors vous avez sur vos feuillets 3 questions qui pourraient alimenter vos discussions. Qu'est-ce qui dans votre vie vous donne parfois l'impression que la parole de Dieu va échouer? Dans votre vie aujourd'hui, le combat vient-il surtout du dehors ou du dedans? Mais quelle promesse de Dieu vous encourage le plus en ce moment? Prions. Oui, notre Dieu, notre Père. Il est vrai que certains passages de l'Écriture peuvent nous laisser perplexes. Comment comprendre toute cette souffrance endurée par Jérémie au milieu de son ministère de proclamer fidèlement ta parole? Et nous pouvons vraiment être perplexes, être dans l'incompréhension. Mais merci parce que tu nous donnes un encouragement. Que qu'importe les persécutions, les moqueries ou l'indifférence extérieure que l'on peut subir, ta parole continuera d'avancer. Mais merci aussi parce que lorsque nos vies, nos semaines sont jonchées par des épreuves, par des difficultés, par des coups de mou, par des dépressions, par de la colère, par de l'incompréhension, et merci parce que ta parole, quand bien même, continue d'agir malgré notre faiblesse. Et que dans cette nouvelle semaine, nous puissions nous accrocher à ces promesses que tu nous as rapportées dans la parole, qu'elles puissent nous donner une lueur d'espoir dans ces journées si difficiles, et que tu puisses nous utiliser comme des porte-paroles pour annoncer que oui, Jésus-Christ a porté le jugement à notre place. Et nous prions en son nom. Amen. Amen.